La diaspora africaine, c'est une émission sur l'actualité, l'art, la culture, l'art, la culture, les traditions, le coaching et les enjeux en Afrique.
De 12h à 13h sur la radio.
Nus FM.
Ici, vous d'ailleurs, nous sommes des enfants
même
d'Afrique.
Même si le ciel tombé, même si le ciel pour la paix, luttons pour la paix.
Bienvenue dans l'émission La Diaspora
Bienvenue
africaine.
Dans l'émission La Diaspora sur l'actualité africaine.
C'est quoi le but de l'émission
en Afrique et l'expression
de la sur l'actualité africaine
pour vous informer de ce qui se passe en Afrique
et l'expression de la diaspora pour sa vision de l'Afrique.
Aujourd'hui,
plusieurs thématiques intéressantes seront évoquées en lien avec la diaspora africaine
de l'Afrique.
Aujourd'hui, nous aborderons la thématique
pourquoi l'interculturalité de l'Afrique
dans la culture de l'Afrique
subsaharienne.
Pourquoi l'interculturalité
les valeurs
dans la culture africaine
plusieurs pays
de l'Afrique subsaharienne
en général.
Énumérer quelques pays de l'Afrique
subsaharienne.
Le nombre
énumérer en tout cas quelques pays de l'Afrique subsaharienne
sont au nombre
48
de 48
sur ces pays de l'Afrique
subsaharienne,
tels que le Burkina Faso,
par exemple,
Luganda,
le Burkina qui fait
Zambie,
partie
Zoudan,
en tout cas de cette zone
Sénégal,
de l'Afrique subsaharienne,
Burundi, Tchad, Cameroun, Sénégal, Sierra Leone. Voilà, donc ça va être toute la partie de l'Afrique, sauf l'Afrique du Nord, l'Afrique maghrébine. On aura l'occasion aussi de parler, en tout cas, de tout ce qui est l'interculturalité de l'Afrique maghrébine, parce que l'Afrique est belle, et puis on aura l'occasion de pouvoir, en tout cas, discuter de toutes ces valeurs culturelles qu'émane l'Afrique. Mais ça permettrait, en tout cas, de mieux comprendre aussi la culture, d'ailleurs, la culture étrangère pour la diaspora africaine, mais aussi ce qui se passe réellement en Afrique en temps réel. On parlera aussi du positionnement de l'Afrique subsaharienne, la différence et ses origines, afin que vous puissiez bien connaître, bien comprendre, en tout cas, ce que c'est que l'Afrique dans sa diversité. La mentalité africaine, on l'évoquera aussi. Hein, comment réussir à faire passer un message en Afrique et aussi dans la diaspora africaine. Comment est-ce qu'on peut moduler, positionner son langage avec la diaspora africaine, parce que dans la diaspora africaine, ça permet aussi de savoir la différence de culture, comment est-ce qu'on peut aussi s'y prendre pour discuter avec les Africains de la diaspora africaine, mais aussi comprendre d'ailleurs ce qui se passe en Afrique. Hein? Donc la femme enceinte en Afrique aussi, comment est-ce que il y a les valeurs, comment est-ce qu'on peut comprendre ainsi bien que pour la diaspora africaine, mais aussi comment ça se passe en Afrique pour les femmes enceintes. On parlera aussi de la place de la femme et de l'homme dans la diaspora africaine, mais aussi en Afrique. La parentalité, un sujet important. Comment est-ce que la diaspora africaine se débrouille ici dans le système, en Europe ou par ailleurs, dans les diasporas, pour pouvoir mettre en exergue la culture de la parentalité en Afrique, mais aussi le système africain ici, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir s'adapter à la parentalité en Europe ou alors par ailleurs. Alors, on va parler de certains comportements, en tout cas, de la diaspora africaine et pourquoi c'est ainsi. Quels sont les outils à utiliser éventuellement pour pouvoir bien transmettre tes valeurs, une communication bien réussie avec la diaspora africaine, hein? Comprendre aussi leur façon de vivre, c'est très important pour pouvoir savoir comment communiquer. Normalement, quand on a plusieurs cultures, que ce soit la culture africaine et qu'on puisse en tout cas transmettre ceci dans la culture occidentale, si on sait bien en tout cas avoir le juste équilibre, ça doit être que de belles choses. Hein? Donc c'est pour cela on va vraiment discuter sur leur manière de vivre et pourquoi en tout cas, hein, telle mentalité, telle manière de penser. Les croyances répandues en Afrique, la conception de l'handicap seront aussi des sujets sur lesquels on pourra élaborer et puis discuter dessus. Positionnement de l'Afrique subsaharienne, quels sont les problèmes de l'Afrique subsaharienne? C'est une zone très riche sur le plan de la biodiversité, quoique vulnérable au dérèglement climatique. L'Afrique subsaharienne est la partie de la planète la plus dynamique en matière démographique, mais aussi les problèmes sanitaires et d'éducation sont les plus préoccupants en Afrique au niveau mondial. Leurs différences et origines sont multiples. Elles vont être centrées sur leur culture, leur langue, les danses, les rites, les langues officielles et officieuses. Je vous en parlerai beaucoup plus. Les langues parlées et les dialectes, un peu des différences, mais on vous donnera en tout cas quelques points là-dessus. La religion dominante en Afrique, dans les pays de l'Afrique subsaharienne, leur nourriture, leur code vestimentaire, leur vision de vie tout simplement. L'Afrique en général puise beaucoup de leur origine entre des continents limitrophes de l'Afrique en question. La mentalité africaine. Quelle est la mentalité africaine? Il y a des Africains avec un très bon état d'esprit, car ils sont éduqués. Et c'est normal, l'éducation émane de partout, c'est au niveau international. Un bon savoir-faire, un bon savoir-être, leur permettant de bien s'adapter quasiment de partout. De par de l'immigration, il y a quand même cette notion de pouvoir s'adapter rapidement, que ce soit outre que dans les terres de l'Afrique. La mentalité africaine est le résumé d'un modèle de pensée ou de l'état d'esprit africain de base avec lequel les Africains sont aux prises avec les problèmes suite à la situation difficile de certains pays. En tout cas, ça émane aussi de leur mentalité, mais aussi de leur résilience et aussi la capacité de pouvoir régler des problèmes avec un système d'aide très rapide et trouver des solutions. Comment réussir à faire passer nos messages? Alors moi je dirais bien, pour faire passer un message, il faut bien comprendre son interlocuteur. En fait, un peu de partout, c'est pas que dans l'africanité, c'est pas que dans la diaspora africaine ou ce qui se passe en Afrique. Il faut se positionner, avoir de l'empathie, bien comprendre son interlocuteur, afin que son message si important à véhiculer soit compris et entendu. Il faut se positionner vraiment réellement à la place de l'autre pour pouvoir comprendre et transmettre un message afin de pouvoir orienter la population de l'Afrique subsaharienne dans le bon sens que vous souhaitez. Donc l'empathie, comprendre leur manière de vivre, leur manière de penser, la mentalité. On va dire par le biais de civisme, la sensibilisation. Mais bon, je sais que là, par exemple, pour la diaspora africaine, éventuellement mieux comprendre la diaspora africaine, par exemple les mairies, les politiques qui reçoivent, pour pouvoir bien aussi les comprendre, il faut comprendre leur talent, leur positionnement, sortir le bon dans cette immigration africaine, pour pouvoir émaner aussi de la culture occidentale et leur laisser le bon côté de la culture africaine. Et je pense mixer le tout, on peut faire de très très belles choses, on peut avoir de très bons responsables avec un civisme, en tout cas qu'on peut attendre des citoyens. Parce qu'ils ont quand même une force de frappe, c'est qu'ils ont des talents à plusieurs niveaux artistiques, sportifs, intellectuels, une capacité dans la résilience de comprendre les choses rapidement, parce qu'ils étaient voués à des déplacements de l'Afrique vers d'autres continents. Donc je pense que bien utiliser ces outils, ça peut être que du bien, si on le fait en tout cas comme se doit pour la diaspora africaine. Comprendre leur manière de penser, leur ego, leur culture. J'ai envie de dire qu'ils ont tendance à importer un peu de partout, mais aussi leur faire comprendre les codes de vie dans les pays qui les accueillent, et normalement il n'y a pas de raison. Alors comment changer ou positionner son langage pour bien se comprendre avec la diaspora africaine? Je ne dirais pas de changer son langage, mais plutôt de l'adapter selon le sujet abordé. Les interlocuteurs peuvent donner des exemples dans leur pratique et qui peuvent aussi apporter les personnes qui en face vont pouvoir les écouter. C'est pas juste qu'on apprend à une personne quelque chose que on est là dans cette position posture d'apprendre, de faire comprendre. Même quand on est dans la position, dans cette dynamique d'apprendre un groupe, une personne, quelque chose, on apprend toujours d'eux. Voilà, il faut avoir en tout cas cette notion de professeur qui apprend des leçons à ses participants, à ses élèves, à ses étudiants, mais qui aussi en retour de cet apprentissage apprend beaucoup de l'autre. Voilà. C'est tellement aussi important de pouvoir parler de tout cela. On a évoqué tout à l'heure les femmes enceintes dans leur alimentation. Les femmes enceintes de l'Afrique subsaharienne mangent un peu du tout, mais aiment particulièrement manger tout ce qui est acide. Citron, pimenté, etc. Comme un peu en France, les fraises donnent envie à des femmes enceintes. Ben, en Afrique subsaharienne, les envies sont multiples. Hein, ça peut être comme sorte de manger tout ce qui est pimenté, un peu acide, un peu, on va dire. Voilà. Après, à voir ce que les scientifiques aussi disent dessus. Est-ce que tout ce qui est pimenté est, en tout cas, réglementaire avec une femme enceinte et aussi pour sa grossesse, etc. Donc tout ça, c'est important de l'évoquer. Ça reste une réalité, l'envie. Et pourquoi ? Peut-être que c'est leur nourriture qu'ils ont, en tout cas, en Afrique, on va dire, de manière exhaustive, qui font qu'eux sont attirés beaucoup plus de ce dont la nature leur donne. Donc, tout ce qui est citron, tout ce qui est orange, tout ce qui est pimenté. Mais éventuellement, voilà, voir aussi comment est-ce qu'on peut progressivement les orienter à d'autres nourritures, de leur envie pendant cette grossesse, pour pouvoir faire l'envie et aussi bonne efficience pour la santé de la maman, mais aussi la santé du bébé. Si le piment n'est pas, par exemple, bon, eh ben, éventuellement, peut-être changer cela à d'autres goûts avec les produits qu'on a en Afrique. Parce que vous savez, même les femmes issues de la diaspora africaine qui sont en Europe, dès lors que l'envie, c'est incroyable, dès lors que l'envie pendant la grossesse y arrive, on cherche dans les boutiques africaines des produits qui pourraient nous faire repenser et assouvir notre envie. Ça peut être parfois le citron, ça peut être des produits pimentés. Voilà, mais comment est-ce qu'on peut faire de sorte que dans la diaspora, c'est par exemple des produits pimentés, c'est pas bon pour la santé, que ce soit pour la mère pendant la grossesse, mais aussi pour le fœtus. Comment est-ce que les experts peuvent réfléchir à orienter un remplacement de ces produits-là pour qu'une bonne efficience de santé, par exemple, éviter tout ce qui est cas d'ulcères et autres. Parce que l'envie est encore plus poussée quand on est enceinte de se diriger sur tout ce qui est pimenté, tout ce qui est assez citronné. Si on peut vraiment avoir d'autres produits de substitution, voilà. Donc ça permet aussi aux experts de la diaspora africaine, qui traitent avec la diaspora africaine, de les orienter un peu dans le bon sens, mais avec des produits un peu similaires. Les femmes enceintes de l'Afrique subsaharienne, il faut aussi savoir qu'en Afrique, il y a beaucoup de tabous entre... c'est moins maintenant, mais bon, il faut savoir que déjà il y a 10-20 ans, c'était encore le cas. Il y a beaucoup de tabous de parler de la grossesse, de la sexualité, beaucoup de choses de la vie quand on est enfant et avec ses parents. Vous voyez, donc il faut beaucoup préparer la jeune maman, la jeune fille, par exemple, à plusieurs angles. Préparer que son corps va, changer à l'intérieur, mais comme à l'extérieur. Bon, à l'extérieur, ils comprennent mieux parce qu'ils le voient de manière naturelle chez les parents. Voilà, mais à l'intérieur, ce que c'est que la grossesse. Par exemple, il y a des enfants qui découvrent, ou des jeunes filles qui se marient à 20 ans, 17 ans, qui découvrent qu'un enfant peut bouger dans leur ventre au bout de 5-6 mois. Vous voyez, donc ça, on découvre sa chatouille dans le ventre, on se dit mais c'est quoi, on ne l'avait pas dit, ma maman ne l'avait pas informé. Donc pour la diaspora africaine, il faut savoir que oui, aujourd'hui avec Internet, on a plusieurs informations, mais il faut cerner parmi ces informations-là, comment est-ce qu'on peut éventuellement bien relayer les choses, bien comprendre les choses, et aussi les experts peuvent être informés que parfois des jeunes filles qui sont enceintes de la diaspora parfois ne sont pas au courant de tout. Donc bien les préparer à cela, c'est important. Parfois c'est un peu tabou certains sujets, et qui font que parfois la femme de la diaspora africaine, qui en tout cas cette notion de tabou a été déjà émaner depuis l'Afrique et arrivent ici, sont pas au courant de certaines choses, avec bien sûr de belles valeurs à côté, mais s'il y a des choses qu'on comprend pas très bien, ben ce serait bien que les experts puissent prendre en charge tout ceci et pouvoir amener, en tout cas, une très belle compréhension, une très belle préparation à la jeune fille en ce qui concerne la grossesse, être enceinte, quels sont en tout cas les changements qui s'opèrent liés à cette grossesse, au bout de combien de temps encore un enfant commence à bouger. Et oui, bien sûr, un enfant ne reste pas intact dans le ventre sans pour autant bouger. À un moment donné, il grandit, c'est un foetus, ben, ça commence à bouger. Donc ça, il faudrait aussi faire comprendre ceci aux jeunes filles qui arrivent dans la diaspora et puis qui n'est pas une surprise parce que j'ai eu des cas comme ça. Voilà. Donc, on va continuer sur l'éducation de la femme aussi en Afrique subsaharienne. C'est dans l'éducation de la femme en Afrique subsaharienne, en Afrique en général. Dès qu'elle est mariée, ses parents lui infligent le fait de pouvoir supporter, en tout cas, la tâche pas lourde, mais assimilée à la femme, concernant le mariage, la grossesse, ainsi l'accouchement, cette force, cette bravoure, ainsi d'être dans la résilience, l'endurance, hein, ce qu'on appelle, en tout cas, dans notre langue du Wolof du Sénégal, mougn veut dire être dans la résilience et l'endurance et supporter tout ce qui est en tout cas ce qui va avec le mariage, la grossesse, l'éducation de la famille. On prépare la femme à une éducation de pouvoir anticiper, supporter, savoir en tout cas prendre toutes les valeurs acquises pour réussir dans son ménage. Ça, on le fait en Afrique, mais en général, les femmes aussi qui viennent ici continuent dans cette lancée, et c'est pas mal. Ce qui fait que ici en France, on peut aussi constater que peut-être toutes les femmes d'origine de l'Afrique subsaharienne, pas peut-être, mais la plupart supportent bien plus ou moins la douleur de l'accouchement parce qu'elles sont préparées à la résilience. Supporter ceci et puis ne pas trop crier dans tous les sens ou ne pas trop s'énerver sur le personnel de la santé au moment de l'accouchement, avec dans ce silence, cette dignité, en tout cas, qu'on peut aussi voir lors de l'accouchement pour certaines femmes. Pas toutes, mais voilà, ça fait partie de l'éducation de la femme. Normalement, il n'est pas interdit de crier quand on a mal, quand on ne supporte plus la douleur, mais elles ont été éduquées à pouvoir supporter ceci. Comme je disais tout à l'heure, retenez ce mot « mougn ». « Mougn » en Wolof du Sénégal veut dire être dans la résilience et dans l'endurance. Voilà, il y a des objets symboliques aussi, après accouchement et pour le bébé. Donc, on a des tissus un peu moulants, sorte de gaine pour attacher le ventre. Alors, après, ça reste coutume, tradition, valeur. Après, qu'est-ce qu'on pense ici en Europe ou en France des experts? Mais quand une femme accouche en Afrique, au bout de quelques jours, quand on commence à perdre un peu le son de l'accouchement, on met un peu de sable un peu chaud avec un peu de beurre de karité. Et on attache le ventre avec sorte de gaine, un peu moulant qu'on va attacher au moment des tétés, au moment de la journée. Mais ce ne sera pas toute la journée pour faire repartir. En fait, la chaleur du sable, ça permet de dégraisser. Beurre de karité permet en tout cas, entre la chaleur de ce sable avec beurre de karité, que ça puisse accélérer, dégraisser tout ce qui est, en tout cas, le pot d'orange sur le ventre de la femme enceinte qui vient d'accoucher. Et tout cela attaché avec sorte de gaine qui s'appelle Mélicane, de l'Afrique. On l'attache bien, parfois on se fait aider ou par sa belle-mère, ou sa belle-sœur, ou sa mère en question, ou ses sœurs, pour faire repartir le ventre très rapidement post-accouchement. Parce qu'on se rend compte que parfois, si on laisse le ventre un peu trop longtemps, c'est un peu difficile parce qu'on n'éduque pas le ventre, le dire tiens, il n'y a plus de bébé, maintenant il faut savoir retourner et surtout brûler les graisses. Après, on peut s'aider de tout ce qui est un bien-être intérieur par des tisanes et autres, comme le quinqueliba, boire à chaud et naturel, voilà, pour pouvoir, et aussi d'autres boissons un peu, on va dire, acides, pour pouvoir aussi perdre du poids et revenir à son poids de forme. Voilà, donc nous avons aussi l'étoffe appelée Millican qui sert aussi à d'autres choses. Hein. C'est une sorte d'étoffe tout blanc et qui ressemble un peu, je sais pas si vous savez, tout ce qui est percale. C'est un bout de tissu blanc, mais beaucoup plus blanc de lait, hein, qui ressemble un peu à le coton. Et tout ce qui est percale. Cette matière mélangée, ça permet d'une part de pouvoir attacher le ventre, mais aussi de mettre l'enfant au dos. Hein, c'est ce qu'on utilise et on l'appelle le Millican, une étoffe qui renferme tout un mystère, parce que ça sert beaucoup à la femme enceinte et ça sert beaucoup à attacher le bébé au dos tranquillement, sereinement derrière le dos de sa mère, et un peu comme ici on voit, il y en a d'autres qui portent le bébé en face, et vous voyez la matière qu'on utilise souvent, c'est une matière un peu étoffée entre le coton et percale, et nous on a cette notion en tout cas de cette matière là qu'on utilise beaucoup pour la femme enceinte mais aussi pour le bébé en Afrique, mais genre justement même les femmes enceintes de la diaspora font tout de sorte pour pouvoir se fournir ce produit de Millican avant l'accouchement pour préparer enfin à pouvoir, même si on est dans la diaspora africaine, pouvoir avoir nos valeurs, nos outils traditionnels pour pouvoir accompagner notre enfant et soi-même post-accouchement. En Afrique, nous avons aussi un petit collier parfumé pour le bébé, hein, qu'on met sur le cou vers 4 mois, mais qui s'enlève dès lors que, voilà, il commence à avoir moins d'un an. Voilà, ça permet d'avoir, qu'est-ce qu'on dit en Afrique, beaucoup plus avoir le cou soulevé, et pas avoir le cou tout bas et qui continue en tout cas dans sa vie à avoir un cou pas très bien élevé, parce que le cou élevé en Afrique, avoir un cou sur sa tête bien allongé, c'est aussi source de beauté, c'est joli. Donc on travaille cela depuis que l'enfant a bas âge, on sent que l'enfant est modulable dans son corps. On lui met un petit collier. Bon, vous savez qu'ici aussi, il y a d'autres discussions. On parle que ces colliers-là peuvent être dangereux pour la santé et autres. Mais on fait de sorte que le collier ne soit pas accessible à l'enfant et que l'enfant puisse mettre dans sa bouche, etc. Voilà, c'est un collier qui va être pile poil au cou et qui va permettre entre la tête et le cou d'être souvent bien dressé. Et ça fait une éducation pour aussi gagner quelques centimètres et avoir un cou élevé à la normale. Tout simplement. Nous avons aussi des outils pour le bébé à la naissance, donc post-accouchement. Le massage du bébé de l'Afrique subsaharienne, on le fait beaucoup, on le fait aussi dans la diaspora, mais aussi en Afrique. Souvent après accouchement, qu'est-ce qui se passe? Il y a souvent des membres de la famille, du côté paternel ou maternel, qui viennent déjà masser la maman. Hein, on a passé notion de kinéthérapie, en tout cas qu'on peut recevoir de notre médecin généraliste comme en France. Là-bas, ça devient et affectif et de l'amour, mais maintenant, directement, qui prennent de leur temps, des mamans de la famille qui viennent aider à masser. Et la maman, parce que post-accouchement, on sait que voilà, le corps a subi quand même pas mal de choses pendant 9 mois. Donc ces massages-là font que du bien. On masse la femme, mais on masse aussi le bébé. Pourquoi le bébé, c'est aussi important de masser? Ça permet... On parle beaucoup de massage de bébé. Hein. Je pense qu'on aura aussi, à un moment donné, une émission là-dessus. Ça peut être génial. On verra au moment opportun. Parce que masser un bébé depuis la naissance, ça permet de jouer sur sa souplesse. Parce qu'on va masser le bébé en prenant les mains. On va essayer de jouer un peu à côté sur la flexibilité, mettre les mains au niveau des fesses du bébé et puis le remettre aussi un peu à l'endroit. Et pareil, les pieds, on les masse avec du beurre de karité ou beurre de cacao et on le remet aussi les pieds jusqu'aux fesses de l'enfant. On fait des va-et-vient comme ça et ça fait énormément de bien. On travaille aussi sur la taille de l'enfant avec beurre de karité. On masse très bien l'enfant. Ça permet aussi de mettre bien en place ce qu'on appelle l'ostéopathie ici et peut-être les kinés. Dès le bas âge de l'enfant, à 1-2 mois, on masse le bébé. Ça permet de jouer sur cette, en tout cas, on va dire, son corps, la flexibilité, la mobilité de l'enfant, et même parfois durant l'accouchement, peut-être que l'enfant a dû avoir peut-être des petites malformations, pas pas inné, hein, mais voilà, en sortant de l'accouchement, le petit, le bébé peut avoir, avoir des déboîtages de mains. Et tout ça se remet en place avec les massages de manière douce et puis aussi, on va dire, de manière accélérée sur des points stratégiques du corps de l'enfant. On dit aussi beaucoup sur la femme, on joue beaucoup sur le massage au niveau de la taille pour faire cette belle courbure, cambrure en tout cas qu'on peut avoir... hein, pour la femme qui est vraiment bien cambrée, on joue dessus beaucoup depuis que l'enfant, la fille est bébé, et après ça grandit pareil. Et on le fait aussi pour les hommes, parce que vous voyez aussi des hommes d'origine africaine d'être très bien cambrés. Il y en a d'autres qui disent, même avec ou sans massage, c'est la morphologie, c'est dans les gènes, mais voilà, ça devient automatique pour nous de pouvoir les masser. Et vous savez quoi? Le massage des bébés africains, mais c'est tellement, tellement, tellement important que parfois même, un enfant qui a été bien massé, au moins 1, 2, 3 mois à la naissance, ça permet aussi à l'enfant de bien dormir, juste après le massage, beurre de karité. On lui donne un peu du miel. D'accord, juste après ça, et avec un peu du beurre mélangé, et ça fait que l'enfant, après le massage, va pouvoir faire une très grande sieste après les tétés. C'est déjà bien, mais le massage aussi a ses vertus, parce que on a constaté que les enfants d'origine africaine qui ont été massés à 1, 2, 3 mois, quand ils grandissent, il y a beaucoup d'accidents et fractures voilà, qui sont quand même exemptés de l'avoir dans leur vie. Voilà, même si parfois on peut faire des actions ou des accidents, on voit que le coup est moins violent. Parce qu'on dirait que voilà, ça met en place pas mal de cellules, pas mal d'éléments sur les muscles et tout ce qui est l'articulation de l'enfant dès le bas âge, et qui protège beaucoup des petits bobos de la vie, comme des fractures, etc. Et des accidents même. On constate que beaucoup sur les enfants qui ont été beaucoup massés dès le bas âge, il y a des accidents, parfois on peut avoir dans la vie, que ce soit des accidents de la route, en voiture. Quand on arrive à l'hôpital en Afrique, souvent on nous demande est-ce que ça a été un enfant ou alors un jeune ou une personne qui a eu les massages quand il était bébé. Parce que ça change les données de comment est-ce qu'on prend en charge ceci. Quand on nous répond non, on ne l'a pas massé quand cette personne a été bébé ou pour X raison a été placée, etc. etc. Ben là, on prend aussi cette notion, comme ici, on va dire, de soigner cette personne, mais aussi de faire des séances de rééducation sur 10 séances, par exemple. Et ça, ça se fait pas forcément dans un centre de kiné. Ça se fait avec savoir-faire et une compétence de l'authenticité, hein, que ça soit dans la famille ou d'autres même qui sont connus pour pouvoir savoir faire le massage des bébés et des personnes. Et une personne à qui on nous dit qu'elle a été massée pendant 6 mois dans les premiers pas de sa vie en tant que bébé, on va dire 5 séances, ça suffira parce qu'elle a été protégée dans une mise en place dynamisme de ce massage de bébé. En tout cas, depuis le bas âge. Donc, cet accident que par exemple, la personne vient d'avoir, oui, ce sera aussi grave, mais post, en tout cas, accident pour tout ce qui est rééducation, eh ben, ce sera réduit de 10 à 5, par exemple, pour vous dire comment c'est important le massage et comment, en tout cas, l'impact dessus pour sa santé, la flexibilité, etc., pour la personne. La place de l'homme et de la femme. Alors, dans un premier regard, nous avons l'impression que la femme africaine, surtout celle de subsaharienne, d'Afrique subsaharienne, est très soumise. Mais derrière cette soumission, c'est elle qui gère toute la famille, oriente les grandes décisions. Hein, tout ce qui est matriarcat domine beaucoup en Afrique, hein, derrière cette idée de parler de soumission de la femme. On est beaucoup plus, on va dire, de manière, en Afrique, manière pacifique. On fait les choses, on laisse la place à l'homme, dans ses paroles, qui veut gérer, être père de famille, mais derrière tout cela, dans cette douceur, de pouvoir peut-être incarner, véhiculer, peut-être la soumission, c'est la femme qui décide de beaucoup de choses. Non? Donc, la place de la femme, en tout cas, en Afrique subsaharienne et même dans la diaspora africaine, reste en tout cas une place très importante. Voilà, les familles qui sont bien équilibrées, on va dire, dans certaines valeurs, traditions, savent la place de la femme. En Afrique, il faut savoir que la religion telle que l'islam et chrétienne aussi émane beaucoup de comment est-ce qu'on peut organiser la vie de famille et telle que la place de la femme qui occupe une place très importante. En face de cette religion, comme je disais tout à l'heure, fait face à la tradition qui prend place beaucoup, ainsi qui joue un rôle important pour la femme africaine de l'Afrique subsaharienne. Alors, on va parler un peu des notions d'éducation ou de soumission pour la femme, juste avant le mariage. La femme est préparée dans un premier cas, par la famille paternelle, la grande sœur ou la petite sœur de son père, en général, qui donne leur fille en mariage dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique subsaharienne, préparent leur fille à un comportement à adopter pour réussir son ménage. Dans son foyer, comment éduquer les enfants, comment se plier à ce que aime son mari. C'est pas une sorte de soumission, mais c'est pour éviter des querelles et des problèmes. Donc on se plie pour que, en tout cas, l'ambiance marital soit en tout cas zen et dans cette douceur de pouvoir comprendre, accepter la vision et se faire accepter dans ce qu'on veut par rapport à son mari, ben, il y a toujours cette notion d'équilibre pourtant. Parfois on a l'impression de penser que c'est une soumission obligée, mais non, c'est une technique qu'on apprend aux filles en Afrique, et si vraiment en général on le revoit aussi dans la diaspora africaine, c'est se plier de ce que aime ton mari et tu verras naturellement. Parce que l'homme est de nature un peu autoritaire, veut se faire voir, veut se faire entendre. Mais il n'y a pas de souci, il y a une manière aussi qu'on apprend à la femme africaine. Tu verras que si tu te plies dans ce qu'il aime, dans la normalité, mais surtout ce qu'il aime et qui est logique, parce qu'on peut aussi toujours les amener à la raison si ce n'est pas le cas, tu verras que tranquillement et tout naturellement, il fera aussi tout ce dont tu veux. Et là, normalement, dans l'Afrique subsaharienne, c'est une notion qui marche très bien. Et les mariages peuvent durer comme ça 40 ans, 50 ans et à vie. D'accord. Et parfois même, on reçoit au bout de 30 ans, 20 ans, 10 ans, une année, des éloges de notre mari par rapport à notre comportement de notre mariage. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent « Mouine être dans la résilience ». Mouine va être dans la résilience, supporter, être prêt à pouvoir supporter ce que c'est que le mariage dans le bien et comme dans le pire. Et ça fait partie aussi, ceci, de pouvoir faire tout de sorte de respecter son mari, de faire de toutes sortes ce que ton mari te dit de faire, tu fais, dans la mesure où c'est vraiment aussi bien. Les interdits, et tu verras aussi tout ce dont tu lui diras de faire, il le fera de manière naturelle. Voilà. Donc tout ça, c'est important à savoir, à comprendre. Un des rites aussi du mariage, comme la nécessité d'accompagner la mariée chez son mari le premier jour. En Afrique, c'est très important qu'elle aille chez son mari, mais accompagnée de sa famille. Après le mariage, c'est aussi important de faire comprendre à la belle famille, on vous amène une fille qui aujourd'hui va se marier avec votre fils. C'est pas juste qu'elle-même, elle vient le jour du mariage ou des fiançailles chez vous, elle est accompagnée aussi d'une famille qui est derrière et qui la considère. C'est une manière aussi de faire comprendre à la famille, on vous donne une fille et notre fille qui nous est chère, donc qui vient en mariage, que souvent en Afrique, c'est pas tout le temps le cas aujourd'hui, mais avant on se mariait à une personne, à son mari, on retrouvait cet homme en concession familiale. Donc on vient retrouver sa belle famille qui va être notre deuxième famille. Donc c'est important que quand on confie une fille en mariage et qu'elle doit rejoindre son mari dans la concession de la grande famille, qu'on puisse l'accompagner. C'est une manière de dire, on vous donne notre fille, occupez-vous bien d'elle, commencez bien à occuper d'elle. Et là, écoutez, il n'y a pas de raison, ça devrait le faire. D'accord. Donc, pour parler un peu dans cette notion de mariage, c'est important. Alors, parlons un peu des hommes. On en a déjà commencé à introduire dans la mesure où on commençait à parler de la femme. On a commencé à introduire un peu aussi un peu la place et rôle de l'homme dans la culture africaine. Bon, parler des hommes en tant que fille, jeune fille, c'est tabou. C'est tabou parfois, mais bon, entre copines, maintenant, ça commence à s'ouvrir plus avec Internet, la nouvelle génération, que ce soit en Afrique. Et ben, dans la diaspora africaine, c'est autre chose parce qu'on s'adapte beaucoup plus de l'étranger, que ce soit en Europe. La diaspora ne veut pas dire juste les immigrés de l'Europe ou de la France. La diaspora, c'est quitter son pays, aller dans un autre pays, même si c'est dans un autre pays africain. D'accord ? On s'y installe et on n'est pas de ce pays. On est aussi de la diaspora africaine. Des Sénégalais qui vont au Gabon, c'est aussi de la diaspora africaine. Donc ça, j'avais juste aimé, en tout cas, éclairer ce sujet. Et je referme la parenthèse là-dessus. Mais il faut savoir que, en général, voilà, parler des hommes en tant que filles, c'est un sujet tabou, sauf entre copines. Vous allez voir ici, par exemple, à 13-14 ans, déjà, les copines ont... entre elles, commencer à parler des garçons, connaître ce que c'est que cette notion de se protéger des pièges qu'on peut avoir dans la vie, etc. etc. C'est un sujet, à 13-14 ans, les filles en Afrique, souvent n'abordent pas ceci, parce que c'est déjà tabou dans leur famille, en leur sein, avec leur maman, avec leur grande sœur, avec leur grand frère. Un sujet tabou, et donc entre copines 13-14 ans, c'est pas forcément un sujet voilà, qu'on parle pour découvrir autre chose entre copines. Et c'est beaucoup plus tard. Donc c'est tellement important aussi pour parler des hommes à ce que pour la diaspora africaine. Hein, des jeunes filles en tout cas qui émanent de l'immigration, savoir aussi voilà, faire la prévention de comment s'y prendre. En ce qui concerne l'homme en question, les pièges qu'on peut avoir, de la naïveté de savoir ce que c'est que les hommes, parce qu'on n'en a pas assez parlé, pour éviter par exemple des grossesses non voulues, etc., etc. C'est un sujet dont je pense qu'il peut être important de préparer les femmes issues hein, et qui débarquent tout de suite de l'immigration sur, en tout cas, en France ou dans d'autres pays de l'Europe, les préparer à cela, ça permet aussi à cette jeune fille d'avoir un enfant ou de ne pas tomber dans des pièges quand elle souhaitera. D'accord, donc ça c'est important. C'est juste l'éducation subsaharienne de l'Afrique qui est un peu comme ça. On a d'autres valeurs des cultures, la tradition à qui les filles, les personnes en général sont bien au courant. Mais voilà, en ce qui concerne certains sujets comme parler des hommes, aller vers les hommes, etc. Parfois, pas dans toutes les familles, mais la majeure partie des cas, ça reste encore tabou. Alors, on va parler aussi de l'éducation de la femme ou pré-mariage, en tout cas de la femme. Tout à l'heure, je vous ai dit que dans certaines familles, c'est du côté paternel. Ça, la grande sœur du papa ou la petite sœur de son père qui prépare leur fille à comment se comporter dans le futur, dans leur prochain ménage, éduquer, etc. Et dans d'autres pays de l'Afrique subsaharienne, comme par exemple au Sénégal, c'est l'oncle, donc du côté maternel, l'oncle, hein, le frère de sa mère, qui a ce rôle de donner sa nièce en mariage et soit être le parrain aussi de sa nièce hein, voilà, pour certaines familles. D'accord ? Et donc être parrain à sa nièce, c'est lui faire comprendre ce que c'est que la vie et lui faire comprendre le jour que tu vas te marier, ce sera moi qui prendrai ta main et l'amener au sein de ta belle famille et puis j'aurai l'accord de ton père mais aussi de ta mère, mais la mère est tellement proche aussi dans ce sens-là et ça c'est plus les femmes qui ont beaucoup plus dans ces rôles de matriarcat à qui souvent c'est leur petit frère ou leur petite sœur qui donne leur fille en mariage parce que la mère pourra à travers son frère hein, lui dire tout ce dont elle souhaiterait parce que là la parole en Afrique en notion de mariage c'est entre famille mais entre hommes, c'est hommes du côté paternel qui parlent souvent avec les hommes du côté maternel, donc la mère à l'occasion en tout cas à ce sens transmet tout ce dont elle veut transmettre à son frère afin que son frère soit porte-parole de la famille, de sa belle famille, de sa future belle famille, de sa fille, non, à ce qu'on puisse être dans la bienveillance avec sa fille. Vous voyez, donc c'est la protection, c'est une sorte de protection de sa fille qui est bien considérée par sa maman et qui aujourd'hui sait que sa fille va être dans les mains d'un autre mari, d'un homme et d'une autre famille aussi qui s'appelle Belle Famille. Donc c'est tellement important pour sa maman de s'assurer que voilà, on donne une fille et on ne donne pas un objet. Il faut bien, en tout cas, prendre soin de cette fille. Et donc, souvent, il y a certaines familles, ce n'est pas du côté paternel, mais c'est du côté maternel, d'accord, qui transmet tout ce qu'elle veut, la maman, à son frère, et à son frère va pouvoir transmettre à la belle famille. Voilà, ce sont des codes, ce sont des valeurs qu'on a aussi en Afrique et qui régissent, hein, comme en Afrique et comme partout ailleurs en Europe, des codes, des lois. Et nous, sauf qu'on ne l'a pas tout décrit, on va dire, dans des livres, mais c'est dans les récits. D'ailleurs, justement, c'est ça le rôle des griots en Afrique, parce qu'on le récit du passé, des valeurs et des cultures, et qu'ils le répètent à chaque occasion, à chaque fête, événement, baptême ou mariage. Et ça, ça s'enregistre de manière naturelle, de savoir les acquis, les valeurs dans des coutumes, dans des pays, dans des ethnies, etc. Hein? Donc, ce qui fait une petite différence entre... Par exemple, la France où tout le monde parle français avec, on va dire, des tons, des intonations, des accents un peu différents, mais ça reste toujours le français avec certains, en tout cas, des patois. Mais en Afrique, dans un seul pays, on peut avoir minimum 7 langues et 7 ethnies. D'accord ? Il y a toujours une langue officielle. Et donc, dans chaque ethnie, il y a des cultures différentes et des traditions. Donc, on peut être là à faire face dans un même pays, plusieurs cultures, plusieurs langues différentes qu'il faut être à mesure d'assimiler. Et d'ailleurs, justement, c'est ce qui amène à ce que l'enfant africain, l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique subsaharienne, peuvent avoir la facilité de langue facilement. Surtout remarquer, un enfant qui vient à bas âge de l'Afrique et vient en Europe, comprendre le français, normalement, avant on disait qu'il ne fallait pas lui parler le français et la langue de nos pays à la maison, ça perturbe, mais ils ont finalement remarqué que les scientifiques, que c'était un atout. D'avoir en tout cas l'enfant qui, à 7-6 ans, a déjà fait l'Afrique et est venu avec ses parents en Europe plus tard et qui avait déjà la langue officielle, par exemple, comme le cas au Sénégal, le Wolof, mais ses parents sont tout couleur, donc Peul, et parle aussi une autre langue du Sénégal qui s'appelle Peul. Donc cet enfant a déjà cette facilité d'avoir les deux langues, que ce soit de par l'école et dehors, parler le Wolof et à la maison, parler la langue Alpula. Et cet enfant qui vient, en tout cas avec ses parents, après pour l'immigration en Europe, ben le français, ça va être facile, ça va être une troisième langue. Et avant, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, il y avait des scientifiques à l'école qui disaient qu'il fallait que les parents puissent parler tout de suite français aux enfants. Tout de suite, parce que ça pouvait les perturber, ça pouvait les bloquer. Vous voyez ? Et donc là, on se rend compte finalement, au fur et à mesure des années, ils se sont rendus compte que c'est scientifique, c'est un atout d'avoir cette diversité culturelle et d'avoir plusieurs langues, parce qu'un enfant à bas âge est capable de retenir jusqu'à 7 langues. Et donc, vous voyez, donc, c'est bien parfois de faire des petites mises à jour, d'actualiser les choses et de parvoir même pour les scientifiques de se dire, bon, on avait évoqué ceci, mais au fur et à mesure, et ça a dû changer, ce qu'on appelle un peu la jurisprudence, ça change avec le temps, ça change avec des remarques, ça change avec des orientations, avec une vision toute nouvelle. Et voilà. Donc, on va continuer toujours sur l'éducation aussi de la femme. La femme ou la jeune fille est éduquée à savoir bien s'occuper de ses futurs enfants. On le prépare à bas âge ou on le voit même sa famille, sa mère le faire. Et normalement, quand l'exemplarité se vit, normalement, ça doit se répéter dans le bon sens, hein, de manière très efficiente. D'accord ? Donc, comment aussi bien s'occuper de son futur mari ? Et ça, c'est aussi une éducation qu'on donne à la femme en Afrique subsaharienne. Et parfois, ça aussi continue en Afrique. Mais parfois, il y en a des femmes qui viennent, issues de la diaspora, qui arrivent et qui veulent changer parce qu'en se disant qu'on est dans un pays de loi, etc. Mais je pense que oui, on est dans un pays de loi. On a des droits, on a des obligations, que ce soit en tant que mari ou femme. Hein. Mais ce serait bien aussi de pouvoir fusionner avec notre belle culture. voilà, quand on dit des belles valeurs, en général, les valeurs, elles sont belles. C'est l'amour, solidarité, partage, etc. Si on prend de ces belles valeurs-là de l'Afrique, on émane avec la culture, l'Occident, et prend toujours le bon côté. Et je pense, mixer le tout, hein, ça peut donner que de belles choses. Voilà, pour ce qui concerne la vie sexuelle, on l'abordera peut-être autrement dans d'autres thématiques où on va pouvoir parler avec des scientifiques, avec la population en Afrique en direct. Voilà, il y a aussi autre chose dans l'éducation de la femme. Non, c'est une très grande manière, en tout cas, dans l'éducation, c'est de former la jeune fille à savoir cuisiner. C'est tellement honteux pour une maman en Afrique, par exemple, de donner sa fille et cette fille ne sait pas cuisiner. Parce que c'est aussi, ça veut dire qu'elle n'a pas reçu toute l'éducation pour pouvoir bien prendre en charge sa famille. Il y en a un peu, il y en a encore un peu, mais c'est les familles très aisées, et très riches parfois, et qui savent que finalement leur fille peut-être va se remarier à d'autres personnes très riches qui n'auront pas besoin peut-être de préparer, etc. Il y en a, mais très rarement en Afrique, toutes les filles savent préparer à l'âge de 9-10 ans. On peut jouer, on nous vole pas quand même notre enfance, hein, on joue, en plus on a des jeux très... très, très sociétal, ou c'est en famille, si on n'a pas des jeux de société, etc., c'est pas grave. Il y a des jeux qu'on fait entre nous en Afrique, qu'on nous rappelle quand j'étais jeune fille, avec la corde à sauter devant la cour de la maison. On faisait tour de quartier, on se créait des petits outils, sorte de petites roues, et avec ça on faisait des petites voitures et on roulait dans tout le quartier. On se faisait d'autres jeux en champ, etc., et c'était impeccable. Mais bon, ça a un peu changé maintenant, mais ça reste toujours un jeu à qui les enfants pouvaient faire. Donc on ne prend pas du tout l'enfance de l'enfant en lui disant il faut savoir faire la cuisine par force, mais c'est des temps dédiés dans la semaine où on doit cuisiner, savoir cuisiner le riz, couscous, etc. De ce fait, à l'âge 14, 15, 16, 17 ans, eh ben, on est déjà forgé et prêt à bien seconder la maman dans la cuisine et être aussi prêt en même temps, de deux en un, à pouvoir bien s'occuper de son mari et de sa famille et de ses enfants. Il y a aussi cette notion de rite avant le mariage, c'est aussi l'aîné, c'est le moment en tout cas d'assimiler un peu ici en France l'enterrement de vie de jeune fille ou de jeune garçon, d'accord ? Et c'est l'occasion là, entre les copines, on sait qu'on est en pré-mariage, c'est là l'occasion parfois de parler avec d'autres copines qui sont déjà mariées. Là, on parle beaucoup, on t'éveille beaucoup sur, ça s'appelle le rite de l'aîné, hein, voilà, on met l'aîné entre camille et les plus expérimentés vont aussi beaucoup te parler, comment s'occuper de l'homme, comment ne pas être dans l'accident, dans être timide, et surtout dans l'accident des premiers, en tout cas, des premières relations avec ton mari. Et c'est dommage, ils en parlent que maintenant. Là, à peu près mariage, on va dire 1, 2, 3 jours avant le mariage. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de préparer. Moi, je suis complètement pour préparer la jeune fille bien avant à savoir ce que c'est que l'homme, le tenant et les aboutissants. Et même avant pré-mariage, on va dire, ne pas tomber dans les pièges de la vie, trop connaître ce que c'est que l'homme et comment est-ce que l'homme aussi peut les orienter dans le bon ou le mauvais, en tout cas, sens de la vie. D'accord ? Voilà, donc il y a aussi une réalité en Afrique. Dans certains pays de l'Afrique subsaharienne, le concubinage passe sans problème. Donc c'est plus les pays où il y a une dominance avec la religion chrétienne, mais pas vraiment tout le monde, hein. Même la religion chrétienne, il y en a d'autres qui ne veulent pas trop de concubinage. Vous vous aimez, vous vous mariez, et puis c'est scellé, c'est fait, et après vous gérez votre vie. Mais beaucoup plus des pays comme Gabon, et voilà, ce sont des pays où le concubinage peut passer sans problème, sans trop de tabous. Mais il y a d'autres pays comme le Sénégal, où il y a la dominance en tout cas de la religion, où c'est très mal vu, et c'est même une honte pour une famille de voir sa fille où son garçon habitait avec quelqu'un sans pour autant se marier, ne serait-ce qu'un mariage civil, un mariage religieux, etc. C'est tellement important. Ça régit un peu leur code de vie. Bon, ça permet aussi de savoir que si votre garçon, votre fille sort en tout cas de la maison pour aller prendre un appartement, c'est du sérieux. Partent pour un mariage et pas pour juste du concubinage ou un test. Voilà. Il est aussi préconisé souvent de se connaître mieux, davantage, avant d'aller se marier, voilà, sur un an, sur 6 mois, etc. Mais ce ne sera pas du concubinage pendant 10 ans. Il y en a, comme je dis, dans quelques pays comme le Gabon et autres, mais il y a certains pays de l'Afrique subsaharienne où c'est très mal vu et c'est une honte même pour la famille. On est encore dans des valeurs et dans des traditions, mais qui régit un peu les codes de vie. Et je pense que, comme ces pays de l'Afrique subsaharienne, c'est un pays avec une administration, éventuellement, et codifié aussi par le code de famille. Voilà, donc il y a la tradition, il y a les valeurs, mais aussi ces codes de vie permettent d'avoir un mariage civil et d'être légal au vu de la loi. Et ça fait que du bien, en tout cas, que ça soit en Afrique, même pour ici. Après, ici, il n'y a pas de souci, on veut se marier, on va se marier. Ici, quand je dis ici, en Europe ou en France, et on va rester en concubinage, il n'y a aucun souci aussi. C'est un peu une liberté dans ce sens. Alors, la place de l'homme, on va aller un peu dans le sens beaucoup plus détaillé pour cela. L'homme, en général, en Afrique subsaharienne, aime avoir la parole dans sa famille, comme je disais tantôt, dans la société. Donc, souvent, une femme comprend ceci, et comme je disais encore, ce n'est pas une notion de soumission, mais c'est une notion d'équilibre dans la vie de famille. Pour éviter des problèmes dans son couple, la femme, ce qu'elle fait, elle fait de sorte que lui donner sa place à l'homme. Et en retour, comme je disais, généralement, l'homme lui redonne toute sa place, et même sa place de pouvoir prendre des grandes décisions, de décider de beaucoup de choses pour la famille, etc. Et sorte d'équilibre se crée. Alors, pour la parentalité. La parentalité, souvent comme dit précédemment, l'homme en Afrique repose beaucoup sur la femme pour ce qui concerne du rôle des parents pour éduquer leur enfant. Voilà, de nos jours, la femme aussi a besoin de travailler, hein, comme l'homme, pour pouvoir apporter quelque chose, mais il reste encore beaucoup dans les familles où, tant que l'homme peut aller travailler, amener de quoi faire vivre sa famille, que la femme ait le temps de pouvoir bien, en tout cas, toujours éduquer les enfants, les orienter, les accompagner, etc. Donc, la parentalité en Afrique, quand tout ce qui est grande décision, quand l'enfant fait quelque chose qui n'est pas bien, le papa est là, hein, pour après voilà, la descente, pour pouvoir bien réguler, hausser le ton. Et la maman est là aussi pour hausser le ton, mais beaucoup plus pour l'accompagnement au quotidien. Et surtout si la maman a le temps encore de rester à la maison. Et ça, c'est un travail, hein. C'est ce que je dis à chaque fois. Les femmes qui restent à la maison, les femmes au foyer, c'est un travail à plein temps. Donc, et la gratification de cela, c'est un choix de famille, que ce soit en Afrique, que ce soit même ici. Le choix de famille, c'est que derrière, on peut avoir à accompagner les enfants, ne pas avoir peut-être forcément de salaire, mais c'est former des futurs bons citoyens pour la société, et ça, ça vaut le coup. Ça diminue peut-être la participation de revenus, de ressources dans la famille, mais on gagne en termes de tous les enfants, hein, qu'on peut avoir dans son foyer, 4, 5, 6 enfants, parce qu'en Afrique, on en fait beaucoup, au moins, on puisse les accompagner au jour le jour. Et ça, il n'y a pas de prix. C'est une qualité. Voilà, que ça soit pour soi-même, savoir qu'on a réussi sa parentalité, mais aussi une qualité pour la société, parce qu'on peut former des futurs citoyens et bien accompagner. Alors, ce que je dis souvent pour l'Afrique subsaharienne, la diaspora ici, parfois c'est un peu compliqué entre le système en France et les valeurs de l'éducation, la parentalité en Afrique. Donc, c'est ce que je vis souvent pour réguler et faire sorte d'équilibre pour la diaspora africaine dans la parentalité. Il faut beaucoup dialoguer avec la population issue de l'immigration de l'Afrique subsaharienne sur l'idée de faire comprendre que on sait que la femme joue un rôle très important beaucoup sur la parentalité, mais il faudrait qu'ici, dans la diaspora, qu'on puisse beaucoup aussi inviter, non, beaucoup inviter le papa à participer aussi dans l'éducation, parce qu'on est, ils se retrouvent souvent dans un système qu'ils connaissent pas bien, dans le système qui n'est pas les leurs, dans une éducation un peu différente, que ce soit à l'école ou à l'extérieur, et aussi de nos valeurs qui émanent de l'Afrique. Il faudrait là, plus simple, que ce soit les deux parents qui s'impliquent beaucoup. Et aussi, on sait qu'ici, beaucoup, la femme a besoin d'aller travailler. C'est très rare, hein, que seulement l'homme travaille. Donc, dans tout ceci, pour bien surveiller, avoir les codes de valeurs éducatives aussi qu'on a en Afrique, qu'on essaie aussi d'avoir l'implication beaucoup du papa. Pas que comme on fait en Afrique, c'est la mère qui éduque, mais oui, la mère aussi travaille. Donc, il faudrait beaucoup, beaucoup de soutien du papa avec nos codes de valeurs éducatives de l'Afrique, avec les codes de valeurs en Europe, qu'on puisse aussi bien accompagner l'enfant. Ce qui est compliqué parfois, ce sont des parents issus de l'immigration qui ne comprennent pas déjà trop le système. Donc ces parents-là se font dépasser rapidement par un système qu'ils ne savent pas très bien réexpliquer à leur enfant. Et c'est parfois ceci qui fait que l'enfant n'écoute pas bien, parce qu'ils se disent que finalement, moi qui suis née il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, ici dans ce système, je connais même mieux le système que mes parents. Ces parents-là sont intelligents. Ces parents-là ont l'intelligence naturelle. Et j'en suis sûre, peuvent accompagner les enfants. Donc il faudrait aussi que les enfants soient à mesure de savoir que oui, ces enfants, ces parents plutôt sont venus en moment de leur vie, d'accord, qui ne leur permettent pas d'assimiler tout en même temps dans les systèmes en Europe ou en France. Mais n'empêche que les parents, c'est précieux dans les valeurs africaines, de les écouter. Et avec les mots qu'ils vont utiliser, même si c'est... Le français débrouillé, comme on dit, mais c'est pas grave. Il faudrait que les enfants aient cette notion de respect pour les parents, mais surtout de savoir que les mots qu'ils vont utiliser, c'est leurs mots à eux. Et c'est pas parce qu'ils manquent d'éducation qu'ils sont pas forcément intelligents pour les accompagner. Vous voyez ? Donc ça, c'est tellement important pour la diaspora, aussi avoir des enfants qui vont pas se tourner vers d'autres enfants comme eux pour comprendre la société. Surtout dans les quartiers, entre eux, c'est que des enfants. S'ils se trouvent, en tout cas, dans l'immaturité de tous, qui c'est qui va guider l'autre? Et cette notion, c'est aussi bien accompagner les parents, non, issus de l'immigration, à bien aussi accompagner leur enfant, mais aussi qu'il y ait de l'entente, d'équilibre entre la jeunesse née ici avec les parents qui sont venus de l'immigration pour pouvoir bien accompagner et faire des bons futurs citoyens. Je défends vraiment l'idée des quartiers. Il n'y a pas que autre chose qu'on voit de néfaste. D'accord ? Il n'y a pas que autre chose qu'on voit de néfaste. Il y a vraiment de belles choses dans les quartiers. Il y en a des ingénieurs, des docteurs, des bacs plus 8, etc., etc. Que ce soit issu de l'immigration, qui sont venus plus tard et qui ont voulu étudier, ou même des enfants qui sont aussi nés de l'immigration. Voilà, donc il faut aussi savoir qu'en Afrique, c'est un peu plus simple. Quand, par exemple, on dit le rôle du père, c'est d'aller travailler, apporter de quoi manger, aussi l'éducation et puis des grandes décisions de famille, etc. Mais ce qui est aussi important de savoir, c'est que le rôle aussi de la mère en Afrique est allégé, parce que la société africaine, je ne sais pas si la diaspora ici font ceci, la diaspora et puis toutes les personnes issues de l'immigration fait cette démarche de pouvoir participer à l'éducation des enfants. Mais en Afrique, il faut savoir une chose, en Afrique, notre enfant fait des choses pas bien dehors et qui est vu par son oncle, par les voisins, est toujours tout de suite alerté. On appelle ses grands-parents ou même sont corrigés dehors. Ici, on n'ose pas. Vous faites quelque chose qui n'est pas bien pour la société, qu'un enfant ne doit pas faire, c'est la société. Un papa, qui est quelqu'un qui peut avoir l'âge de ton père ou de ta mère, qui va te corriger. Et même si ta mère était là à côté ou qui voit cet acte, peut dire ben, merci beaucoup à cette voisine de maman ou cette maman qui s'est portée garant de pouvoir réguler. Et corriger son fils. En Afrique, la société éduque et participe à l'éducation de ton enfant. Encore moins maintenant, depuis 5-6 ans, ils commencent un peu à faire un peu comme en Europe. Ici, on n'ose pas. On voit un enfant qui fait quelque chose de pas bien. On évite même de le regarder en face parce qu'on a peur que l'enfant nous dise « Pourquoi tu me regardes ?» ou nous fasse mal, ou nous agresse, ou nous dise même « De quoi vous vous mêlez ?» Et peut-être la diaspora africaine fait ceci, hein, ou les personnes issues de la diaspora africaine font cela. Et si toutefois on voit de même communauté ou de même pays un des enfants de tel qu'on connaît très bien dans la société issue de la diaspora, on peut peut-être alerter. On peut se rappeler un peu de nos valeurs en Afrique. Voilà, faites attention, je commence à voir ton fils qui commence à être sous les bâtiments des immeubles et qui fume un peu ou qui a, je l'ai vu, en train de faire des choses pas bien. On alerte les parents. C'est très bien, on rend service. Peut-être la diaspora, hein, j'en ai pas vu, mais je sais qu'en Afrique, en tout cas, l'éducation de l'enfant, c'est la maman qui éduque souvent, qui est mère au foyer, qui éduque, qui accompagne, qui discute. La société aussi participe à cette éducation. Que vous connaissez la personne ou pas, que ce soit son oncle ou pas, eh ben, on peut même parfois recevoir un peu des coups de fessée dehors parce qu'on a fait quelque chose de pas bien, de quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout. Mais on s'en rappellera que c'est pas à faire. C'est pas ni ma mère ni mon père, mais c'est un tonton de la société qui m'a éduqué ou une maman. Et là, on rend bien, en tout cas, un remerciement la personne qui a éduqué son enfant, parce qu'on sait que ça nous rend service. Voilà. Donc, pour continuer toujours dans l'éducation des enfants, et on va pouvoir prochainement, en tout cas, continuer sur d'autres thématiques, parce que la thématique, elle est intéressante, large. On pourra discuter sur certains comportements de la diaspora africaine qu'ils ont, et peut-être qui émanent de l'Afrique, qui peut être bien, qui peut ne pas être bien régulé. Ça sera prochaine fois sur la prochaine émission. D'accord ? Et on parlera aussi, toujours la suite de l'éducation de l'enfant, on parlera des outils à utiliser par des experts ici en Europe, mais pour la diaspora africaine, comment faire de sorte qu'on puisse bien accompagner l'immigration africaine dans pas mal de choses, afin de pouvoir avoir derrière aussi un bon accompagnement pour les enfants. D'autres thématiques comme ça. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté l'émission sur la diaspora africaine qui parlera de l'art, la culture, les traditions, les valeurs, coaching, éducation de la diaspora africaine, mais aussi de ce qui s'y passe en Afrique. À bientôt et je vous remercie.